Chantal, soyez les bienvenus avec Léa Kadourou Nadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrist, Daniel Morin.
Ah, bravo toi.
Albert Aigou. Il y aura Tanguy Bassureau tout à l'heure et notre invité donc Monsieur François Cluzet. Avec un très 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 bon film. Mais alors, je crois que c'est le meilleur film qu'on ait jamais vu. Il y a un côté qui sait vivre dans ce film. Voilà.
Qu'est-ce que c'est bien. Chocolat au lait de Normandie.
Et pourtant, ça commence mal. Ça commence par une crise. Bienvenue déjà François à ce micro. Merci au-delà de ces chocolats. Merci de venir.
Je suis content d'être là.
C'est la crise dans les campagnes. Tout va mal. C'est comme ça que ça démarre. Et vous êtes le maire d'une ville justement qui est en crise. C'est-à-dire que à la fois que ce soit le prix du lait, que ce soit le crise de la viande bovine, ça va mal. Et même quand il y a des supermarchés qui s'installent, ils vont s'installer dans la commune d'à côté, puisque vous aviez écouté les conseils de tout le monde en disant non, il ne faut pas que, je ne sais plus, c'est un Intermarché, un géant.
Un Intermarché.
Qui vient s'installer dans la ville, et après on vous le reprochera plus tard. Donc ça commence très mal pour vous. En tant que maire.
C'est une situation de fond, la crise agricole, il y a des choses assez dramatiques qu'on entend là-dessus, vous savez, pas mal qui se suicident et tout. Ouais. Bon, c'est le thème de fond, quoi. Par-dessus ça, j'ai l'impression que la chance qu'on a eue avec Philippe Le Guel, le metteur en scène, c'est qu'il a pu amener ça dans le divertissement. Mm-hmm. Faire quelque chose de léger, digeste. Finalement, c'est pas si simple.
C'est ça le coup de maître, parce qu'en effet, la toile de fond est quand même lourde. Vous, Balbuzard, ce maire-là qui essaye de sauver tout le monde à tout prix et d'essayer de fédérer, parce que c'est ça la problématique, c'est de fédérer tous les agriculteurs pour marcher dans une même direction. Et finalement, on en arrive à une comédie.
Oui, je suis content que vous dites ça, parce que c'est aussi ça qui m'a séduit dans le scénario. Ouais. C'est-à-dire, il y a une espèce d'authenticité. C'est difficile de parler le problème des agriculteurs sans évoquer leur drame, leur tragédie quasiment.
Et justement, vous réussissez à l'évoquer, ce côté dramatique, ça c'est pas évité, tout en trouvant une part de comédie. Alors comment amener la comédie? Ben, c'est l'élément extérieur, en l'occurrence deux Américains paumés dans une... D'ailleurs, quand vous parlez en anglais, là, on sent qu'on est vraiment dans la comédie. deux Américains qui sont bloqués sur une autoroute.
Par une manifestation.
Et le maire que vous êtes, au début, vous lui expliquez comment faire pour aller
à l'aéroport.
C'est ça, prendre son avion. Et l'Américain, photographe professionnel, qui fait des happenings en faisant des photos un peu partout dans le monde, est pris d'amour pour le champ
Cholet.
Le champ Cholet. Le champ Cholet au chocolat.
Ce champ-là, pas un autre. Il recherche depuis des semaines un champ en France, mais le paysage ne lui convient pas.
Avec un arbre gigantesque, un peu comme un cèdre du Liban. C'est-à-dire, il est tellement beau,
un paysage de Depardon, quasiment. Ouais. En fait. Et il veut ce champ-là absolument. Sauf que vous lui proposez plein d'autres champs, parce que le champ en question, le propriétaire ne veut pas le prêter.
Oui, le type que joue Philippe Rebaud a décidé que si les Américains mettaient un pied dans son champ, il leur tirerait dessus, quoi. Donc le problème réglé, il faut essayer de trouver une alternative avec un autre champ. Seulement, on est face à ce photographe américain qui est un peu tout en haut du caprice. Ouais. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'idée de génie et c'est incontrariable, quoi. Mm-hmm. Et cet acteur qu'on
Toby
a...
Toby Jones,
c'est vraiment un acteur merveilleux.
Mais alors, c'est pas simplement des photos de champs, parce qu'il faut aller plus loin.
Oui, forcément,
c'est le cadre naturel.
C'est dans le titre, même, dans Normandie nu. On n'est pas en train de dévoiler, sans mauvais jeu de mots,
c'est le paysage mis à nu, et la population de ce paysage aussi mis à nu, c'est-à-dire de voir poser, dans la tenue d'Ève et d'Adam, dans ce champ Cholet.
Oui. Pourquoi? Parce que ça commence par une manifestation un peu plus ordinaire, qui est le blocage d'une autoroute, et finalement, qu'est-ce que font les médias de ce blocage d'autoroute? C'est 3 secondes ou 3 minutes, et où finalement on interroge.
On ne voit que le Parigot de service, c'est-à-dire François-Xavier de Maison, c'est ça.
Et qui lui donne son avis sur les agriculteurs, ce qui évidemment les agriculteurs se mettent en boule, quoi. Et alors après arrive cette opportunité de ce type qui veut faire cette photo, il faut mettre tout le monde à poil et tout ça. Bon, on passe là-dessus, si ça fait parler de nous, il faut y aller, quoi.
Et voilà, et là vous retrouvez dans un conseil municipal.
Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles.
La question à travers cette chanson est de savoir justement qu'est-ce qui, quel avenir pour les enfants, pour les familles, pour leur patrimoine, parce que c'est leur vie. La maison, la terre, le bétail, le lait, la viande, ils ne vivent que de ça et ils se le passent de père en fils, y compris d'ailleurs, on parlait de ce terrain, de ce champ Cholet, à qui est-il vraiment, là aussi, il y a un secret familial qui est porté et qui est révélé à la fin du film, mais on se rend bien compte que c'est plus que la tradition, c'est vraiment ce qui coule dans leurs veines, ce qui fait battre leur cœur. Ils réagissent tous d'une manière épidermique à la moindre information nouvelle qui arrive, avec quand même aussi une force d'amour qui est assez forte. C'est-à-dire on sent vraiment qu'ils sont tous siamois, qui sont tous liés, intimement liés. Ils peuvent se détester. Il peut y avoir des engueulades de voisinage, mais en même temps, on est tous dans le même bateau.
Oui, ils partagent cet amour de la terre. Moi, j'ai connu ça quand j'étais môme, parce que j'allais en vacances dans les Hautes-Pyrénées. Ma famille, mon grand-père était paysan, et justement, il n'y avait pas de quoi le nourrir dans la ferme. Donc, il a dit, mon vieux, t'as 13 ans, tu vas aller faire un CAP d'horloger. Mais ça voulait déjà cette conscience que la difficulté des agriculteurs. Et déjà, à cette époque-là, ils parlaient du prix du veau qui n'avait pas bougé, de leur pouvoir d'achat, mais ça n'a pas cessé de dégringoler, quoi. Donc j'avais un petit écho intime du fait mon enfance, et je comprenais bien qu'aujourd'hui, c'est quand même le moment de prendre conscience. On prend souvent conscience de la crise des agriculteurs, mais on voit pas trop les solutions.
Alors il y a un autre tour de force, c'est de mettre des Normands nus. Déjà, parce qu'on connaît la légende des Normands qui sont toujours habillés, surhabillés, même l'été. Qui sont
toujours. T'as pas fréquenté les bons.
Très couverts. t'as pas fréquenté les vrais.
Ah, apparemment, voilà. Il y a du dos.
Il y a du dossier. Et puis justement,
ce que j'avais lu était vrai.
J'en viens à cette question, François Cluzet, la nudité, vous l'avez abordée comment, la lecture du scénario? Parce que.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais pas comment vous êtes tous, mais franchement.
Non, ne vous posez pas la question.
Vous savez, un acteur, c'est un exhibo. C'est un exhibo, mais c'est plus facile de montrer son intérieur ou de dévoiler son jardin secret ou d'être abandonné dans l'exercice du jeu que de se foutre à poil, quoi. Ça, c'est délicat. Alors, j'ai dit au metteur en scène, là, il y a une scène, j'ai eu un peu de mal. Oui, mais elle est essentielle. Oui, bon, alors, comment on fera? Et alors, pour finir, pour me rassurer, Philippe Le Guay dit, écoute, on se débrouillera, on trouvera un petit cachet, ce couleur chair et tout ça. J'étais rassuré sur le moment, et puis le tournage arrive, puis je vois que tout le monde parle de cette scène, on va être tout nu. Petit à petit, je me dis, donc, je vais être le seul à avoir un cachet dans cette affaire, et je vais passer pour l'obscène de service, quoi, évidemment. Monsieur cache ce que tout le monde montre. Donc, je me suis vite enrôlé.
D'autant que c'est une réplique qui vient régulièrement dans le film. J'ai rien à cacher, moi. Oui. Ça vient aussi de l'un des personnages. Oui, et la question se pose même entre eux. C'est-à-dire, ils se connaissent, ils se voient habillés depuis des décennies, puisqu'ils ont grandi ensemble, ils sont nés ensemble, et ils vont. Tout le monde connaît la femme du boucher, la femme du boulanger, le pharmacien, et ainsi de suite. On se verra. Je crois qu'il y a une des personnages qui dit ça. On va se voir habillé demain. On peut pas se voir nu aujourd'hui. C'est plus facile de se mettre nu devant des inconnus que devant des gens que l'on fréquente tous les jours.
Bien sûr, on va les retrouver au supermarché. Ils auront toujours dans les yeux une espèce de lunette extra, je sais pas quoi, qui font qu'ils se rappelleront du corps de chacun. Quoi. Et ça, c'est pas possible.
On vous voit, mais on vous voit peu. C'est un plan large et on vous voit de dos.
Enfin, c'est un plan large. Le problème, c'est sur un grand écran. Ça peut être un plan large, on le voit bien quand même.
Hein. Oui, mais de dos. Ouais, de dos. François,
tu te plains, t'as regardé.
Je suis un peu triste. j'entends par là, François Cluzet, vous avez demandé un plan large pour que ça soit un peu.
Heureusement que c'est une fille qui pose cette question à un garçon. Parce
pour une fois que c'est moi qui la pose, et pour une fois qu'il y a des hommes nus dans un film, par exemple, généralement c'est les femmes qui sont à poil.
À chaque fois, c'est le. Pour une fois que.
Non, évidemment, on ne peut rien demander à un metteur en scène. On ne va pas choisir l'objectif et la focale.
L'angle.
On peut l'orienter.
Mais on était quand même rassurés par la façon dont Philippe Le Guay nous exposait aux agriculteurs comme à moi-même, à tous les acteurs, comment ça allait se passer. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça, les caméras étaient dans notre dos, et tout le monde s'est déshabillé et est parti de dos. Moi, j'avais juste un problème, c'est que mon jean me collait à la peau parce qu'il faisait chaud, donc j'avais un mal fou à l'enlever, donc j'ai pris du retard. Finalement, j'ai arraché le bénard, et je fonce, et j'étais obligé de regarder par terre parce qu'il y avait plein de bouses de vache, donc j'évitais les bouses de vache, tout ça. Puis je lève la tête, et j'arrive au moment où la barrière est ouverte, et là, je vois 40 culs devant les yeux. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on est, quoi? Et puis ensuite,
au César.
On s'éloigne un peu, on nous retrouve de face, mais la caméra est loin.
En plan large, mais il faut aller voir le film si vous voulez savoir exactement comment la Normandie se retrouve nue, Normandie nue. C'est vrai qu'il peut y avoir ce jeu de mots avec la mise à nu, ça veut dire aussi...
ils sont à poil.
Sans, ouais, à poil, au sens où on n'a plus rien pour vivre et pour s'en sortir. Et l'idée est de faire parler de soi avec ce photographe joué par Toby Jones. On a déjà parlé de François-Xavier de Maison, il y a également Arthur Dupont, fils du photographe qui revient ouvrir la boutique et qui se demande s'il va rester ou pas dans le village. Grégory Gadebois, Philippe Robot, dont vous avez déjà parlé, bien armé dans tous les sens du terme, Patrick Dassoumsao, et puis il y a tous les paysans, les éleveurs aussi du village dans lequel ça a été tourné, qui jouent leur propre rôle.
Bien sûr.
Qui jouent leur propre rôle. Qui donnent sa touche de véracité.
Oui, c'est vrai, cette authenticité, elle vient aussi qu'on leur a confié des dialogues qui pourraient très bien être les leurs, puisque finalement, ils vont parler que de leurs revendications face aux difficultés d'agriculteurs, et qu'ils étaient d'une vérité dingue. Et nous, les acteurs, on n'est pas toujours vrais. Des fois, on a besoin de jouer un peu, de truquer un peu, tout ça. Alors là, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement brutes de pommes que la seule chose qu'on peut faire, c'est leur répondre en vivant la situation et ne rien rajouter.
Alors justement, ça aide, ça, quand on est comédien, d'être, de jouer le paysan avec de vrais paysans plutôt que de jouer le paysan avec d'autres comédiens extrêmement bons, d'ailleurs. Hein, parce que je pense à Grégory Gadebois, il est...
Ça aide, en tout cas, c'est ce qu'a voulu le metteur en scène. Donc nous, le collectif, c'est une machine qui doit avancer, donc il faut bien positiver la situation.
Mais on cherche quoi, hein? le ton de la voix, la même musique dans un pseudo accent, même s'il est pas très fort.
C'est toujours
fort,
un peu dangereux. Ils étaient tellement enthousiastes. Moi, ça m'a rappelé aussi les tournages de Chabrol. On arrivait toujours en province et à ce moment-là, il y avait tout le village qui vivait un événement tellement important de voir un film se dérouler devant leurs yeux, que les antiquaires prêtaient les meubles quand on a fait l'enfer et tout ça. Ils veulent. Et là, c'était pareil. Ils voulaient tous participer, quoi. Donc, notre job à nous, c'est que l'échange fonctionne. Que vous soyez avec un pro ou un amateur, il faut que l'échange fonctionne. Donc, petite adaptation. Mais bon, ils étaient tellement généreux. Vous savez, quand vous avez 50 personnes comme ça, du cru, dans leur propre rôle, hein, c'est eux qui ont le bon timing, quoi.
Mais vous êtes senti presque en mission aussi de ne pas les décevoir dans l'interprétation de votre personnage et dans les valeurs portées par le film. Il faut bien préciser aussi que dans le film tous les propos sont tenus aussi. Il y a la fille de François-Xavier de Maison qui joue la bobo de service et qui parle elle des méfaits carrément de la viande en disant mais ça file le cancer, puis le réchauffement climatique va
le traitement des animaux
va rendre la Normandie totalement désert, voilà, le traitement des animaux et ainsi de suite. Donc tous les propos sont tenus dans le film, c'est pas un film militant en particulier, c'est une photo sans mauvais jeu de mots précise à l'instant T de ce qui se passe dans nos campagnes, dans nos élevages, mais aussi dans l'esprit des gens en disant faut-il ou pas manger de la viande, faut-il ou pas consommer, parce qu'évidemment moins on en mange, plus la crise s'aggravera pour ces mêmes paysans. Tout est là-dedans et je me dis, est-ce que oui, vous aviez pas ce regard des véritables paysans en disant faites gaffe de ce que vous allez faire de nous.
Pas nous trahir.
Ah oui, certainement. Je crois que c'était la préoccupation du metteur en scène, Philippe Le Guay. Mais alors, il s'y était pris bien en amont. C'est-à-dire qu'il a été les voir.
Il a acheté une ferme.
Il a été les voir tous ces agriculteurs.
Il mangeait de la viande 3 fois par jour.
Il a bu des coups.
Et il a nourri le script de ce qu'ils leur ont dit. Quoi.
Évidemment.
Donc ensuite, après les avoir rencontrés, certains voulaient jouer la comédie. Et après, il fallait leur dire, vous savez que si vous êtes dans le film, il va quand même, à un moment donné, falloir que vous foutiez à poil. Quoi. Et ça les gênait pas. C'est, ah bon, mais est-ce que tout le monde va le faire? Bah oui, tout le monde va le faire. Il y a une espèce d'énigme.
Comment en fait, il n'y a que vous avec la nudité.
Moi, j'ai été le seul problème.
Non, mais je pense qu'il y a eu. Non, si, il y a quelques comédiennes aussi qui ont pu se poser la question, parce que c'est.
À vrai dire, on riait beaucoup de ça, si tu veux, parce qu'on savait que on allait tous y passer, quoi. Donc, on riait
c'est
un peu ça.
C'est peut-être ça qui est plus facile, de se dire, tant qu'à faire, on y passe tous. Est-ce que vous avez demandé à ce que l'équipe technique derrière la caméra soit également à poil?
Non, surtout pas.
Vous avez dû.
Surtout pas. Surtout pas, parce que alors ça, pour vous déconcentrer, il n'y a rien de mieux, quoi.
Après, tu tombes amoureux, c'est pas facile.
C'est une comédie, mais avec en toile de fond. le problème de la crise dans les campagnes. Ça s'appelle Normandie Nue, ça sort demain au cinéma, un film de Philippe Leguet avec François Cluzet qui est notre invité. J'espère, mon cher Jean-Jack Lang, que vous avez bien compris pourquoi François Cluzet était là.
Bonjour les meufs et les coms de la BO, toujours aussi loser en 2018. Très cher Nagui, pour être honnête, honnête est un mot que je vous expliquerai après l'émission, vaut que quelques chocolats suffisent à corrompre. Et donc, pour être honnête, vous ne m'auriez pas posé cette question, je me laisserais poser moi-même. Tout d'abord parce que j'adore m'introspecter en me penchant sur mon moi aussi profond que fascinant. Ensuite parce que votre question est d'une intelligence, d'un bon sens, d'une exigence, d'une excellence, d'une fulgurance, bref, d'une pertinence, et croyez pas que je dis ça pour vous flatter bassement.
Non, il y a que des mouances.
Ouais. Voilà. Alors si nous recevons François Cluzet, c'est bien sûr pour son immense talent de comédien, dans ce film comme dans les autres. Soit dit en passant, mon cher Nagui, j'ai été surpris par la présentation élogieuse que vous venez de faire du jeu de François Cluzet. Tout à l'heure, en effet, je vous ai entendu dire à GNB, notre rédac-chef, qui vous approuvait servilement entre deux gifles, quelle idée d'avoir invité ce Cluzet en cutéru du cru, en plouc de la Sarthe, en pézouille normand. Il est aussi crédible que l'île à Cadour le serait en mer Denis. Bon, quant à moi, je reviens toujours à moi-même. Si je suis particulièrement heureux de recevoir François Cluzet, c'est surtout parce que dans Normandie Nue, son personnage tente d'organiser un événement festif, en l'occurrence une gigantesque Pecno-parade, dont l'originalité consiste à mettre tous les paysans et les paysannes qui y participent entièrement à poil. Dans le film, le personnage du photographe Blake Newman, évoqué tout à l'heure, est inspiré directement de mon ami, lui aussi, le vrai photographe, le New-Yorkais Spencer Tunick, dont le patronyme, je l'avoue, m'inspire quant à moi des calembours savoureux. Ainsi, quand il me lance « Hello, Jean-Jacques, ça va ?» Je lui réponds « Pas mal, et toi, Tunick ?» Pour nos auditeurs incultes, mais si, on peut se le permettre de temps en temps.
Ben non.
Pour nos auditeurs incultes, je rappelle juste que Tunick se définit comme étant, je cite, un créateur d'installation. Ce qui ne veut pas dire qu'il est chauffagiste ou plombier, mais qu'il photographie des foules à Walpé. Et son exemple, mon cher Nagui, revivifié par celui de Normandie Nue, nous a donné, à mon cousin Jack, car je ne suis que son cousin, et à moi-même, l'idée de réorganiser toutes les prochaines festivités de masse. Techno-parade, Gay Pride, défilé du Nouvel An chinois, pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, pot de départ de Daniel Morin. Désormais, les centaines de milliers de fêtards, de toffeurs, de danseurs, de ces réjouissances défileront entièrement en nu pour être pris en photo, mon cher Nagui, tout ça au son de vos amis que vous connaissez bien, vos amis DJ, les Megamix. Ce sera tip-top, et d'ici là, bonne émission.
Merci, Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Normandie Nue, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez chaud avec le jean au moment de l'enlever, c'est-à-dire que ça a été tourné en plein été ?
Fin de printemps, puisqu'on a fini par cette scène-là, il faisait assez chaud. Oui, j'étais dans la merde d'ailleurs, parce que...
Dans la bouse.
Oui, dans la bouse jusqu'au cou. Et donc c'était décompté, quoi. C'est-à-dire, un, deux, trois, tout le monde doit se déshabiller à fond et tout ça.
Il n'y avait qu'une prise.
C'est ce que tout le monde souhaitait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de prise. Donc tout le monde était vraiment au garde-âme. Mais en attendant, en plus... moi j'ai eu ce souci-là. Quoi.
Non.
Bayonnette au canon.
L'idée, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que l'idée du maire est de se dire on va faire cette photo pour faire parler de nous, puisque aux actualités régionales, on a beau faire des manifestations, des barrages, des bouchons, on nous oublie, on nous ignore, donc c'est un peu comme le calendrier un peu des rugbymans, on va créer un événement artistique. En effet, Spencer Tunick étant un photographe mondialement connu, mais enfin...
Il photographie des foules énormes,
c'est ça,
dans les grandes villes du monde.
C'est le principe, enfin, tout le monde peut photographier des gens nus, et pourquoi pas ce Black Newman aussi. Sauf que on a que le making-of, finalement, de la photo, tout le film est ça, et oui ou non, allons-nous réussir à faire cette photo? Et on en oublie finalement le moteur de cette photo, on en oublie pour en revenir aux vrais problèmes relationnels, économiques et de vie en société, et de vie dans un village, qui redeviennent à nouveau l'intrigue, notamment la propriété du champ, notamment le regard des uns sur les autres, de ce parigot joué par De Maison qui se force, malgré toutes ses allergies, ses psoriasis...
Ça c'est drôle, le rêve de la campagne, comment le
plus.
Rêve
il prend en peut plus. Il craque, le mec, il veut des bouchons et pouvoir la République. Donc,
la
c'est vrai que le portrait est beaucoup plus... humain que simplement c'est oui, histoire de la com et de la crise sociale. Non
bien sûr. Et puis c'est quand vous êtes maire d'un village comme ça, s'il y a 500 ou 600 habitants, c'est ce collectif qui va leur donner ce courage d'y aller à cette photo. Individuellement, ce serait délicat, mais finalement, le film est joyeux en ce sens que c'est dans cet enthousiasme de faire quelque chose auquel il n'aurait jamais pu penser, parce que ça peut être une idée new-yorkaise, américaine, parisienne, voire mais certainement pas une idée du Mail-sur-Sarthe, quoi. Donc cet enthousiasme et ce collectif donne, il me semble, dans le film, quelque chose d'assez joyeux, très positif. Il y a dans mon rôle une espèce de force de conviction totalement nécessaire, parce qu'à chaque fois se pose la question, oui, mais quand tu dis nu, tu veux dire sans le caleçon.
Oh,
oui, bah oui, évidemment.
Je peux garder les bottes.
Voilà, je peux garder les bottes.
Vous le faites très bien, ce maire un peu agacé par toutes ces questions, parfois, en leur disant, vous perdez de vue l'essentiel. Oui. Je suis là pour vous défendre, pour qu'on survive, et vous me posez des questions de caleçon, enfin.
Oui, exactement. Il est complètement désemparé, c'est-à-dire qu'il il pensait pas qu'il se retrouverait face à une fronde pareille.
Ouais, et puis il a totalement, il ne vit que pour son village et que pour ses habitants.
Ah oui, c'est le maire idéal. Enfin bon, pour lui c'est peut-être pas très drôle. Non. Sa femme est partie parce qu'il y avait trop de choses à faire.
Parce que c'est une charge énorme pour peu d'argent, très peu d'argent.
Mais... Une charge énorme.
Et charge énorme, et puis une source de tracas, c'est-à-dire que tout le monde vient le voir pour de moindres petits problèmes.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors lui, il a cette conviction, c'est pas quelque chose qui le dépasse, il essaye de faire comprendre que tout ça c'est bon pour le village, quoi. Sauf que bon, les têtes prouvent qu'il y aurait peut-être avoir une meilleure idée, plus simple, et en tout cas moins exhibitionniste, quoi.
En plus, on le soupçonne d'avoir touché des pots de vin sur l'histoire de l'affaire du supermarché, voilà. Donc ça, c'est, y a rien de plus pour l'énerver. Et il en vient à se poser des questions comme ces agriculteurs dont vous parliez tout à l'heure en plein milieu de crise. Est-ce qu'il ne faut pas finalement qu'ils passent la corde autour du cou? C'est-à-dire que une vraie question d'un sentiment de ne servir plus à rien, puisque plus personne ne l'écoute. Et
oui, je crois
tout ce qu'il a sacrifié, il a sacrifié sa vie, mais...
Oui,
pour rien.
C'est le problème de tous les altruistes. À un moment donné, ils se demandent si ça sert à quelque chose de donner, quoi. Donc lui, comme il consacre sa vie à ses concitoyens, à ses villageois, mais qu'il voit des réticences en permanence, quoi. Tout le monde lui explique un truc qui fait qu'il faut pas le faire.
En fait, c'est pas un film, c'est un documentaire. C'est François Cluzet-Maire, c'est un documentaire. Précisons quand même une chose, c'est que, évidemment, on parle de la photo, cette fameuse photo de mettre tout un village nu pour faire parler, mais la photo au sens cinématographique du film est absolument sublime.
Beauté.
La lumière, la brume au lever du jour, à l'aube, les cadrages, il y a des moments comme ça de silence et de contemplation qui nous rendent amoureux de la campagne.
Un chocolat, Nagui ?
Non, c'est vrai.
Y a aussi un...
C'est vrai, parce que la photo est au centre. La photo nue est au centre de tout ça, mais...
Oui.
L'image au cinéma, ça compte.
Mais non, mais écoute, je suis désolé, tu devrais voir plus de films. Il y en a où la lumière est loupée, il y en a où les cadres sont loupés, il y en a où les gens sont moches, quoi. Et là, c'est pas le cas.
Non, mais là, c'est la chance d'avoir Larieux. C'est un grand chef opérateur qui travaille depuis longtemps avec Philippe, donc ils ont une complicité dingue. Et c'est vrai que c'est cette brume sur le champ avant de se déshabiller, là, comme ça. On se demande, c'est un petit côté martien.
Non, puis les cadrages sont c'est digne d'en faire des posters.
Les bons metteurs en scène, la bonne focale. Non, parce que c'est toujours une histoire de focale.
C'est important. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que François Cluzet venait nous présenter Normandie nue.
Oui, et justement, François Cluzet, quand je pense à vous, je pense à un réalisateur que vous avez évoqué tout à l'heure.
La moitié des gens qui joueront le film sont des comédiens professionnels. Je veux dire, je n'ai pas utilisé les amateurs par principe, mais ces comédiens professionnels, j'ai essayé, à une ou deux exceptions près, de ne pas les prendre trop célèbres. Pour que le décalage de leur célébrité des rôles qu'ils ont interprétés avant ne crée pas un problème pour l'identification des spectateurs avec le film lui-même.
Voilà, c'est Claude Chabrol sur le tournage de Cheval d'Orgueil, c'était en 1980. Et parmi ces jeunes comédiens professionnels, un certain François Cluzet. C'est votre premier des 5 films que vous avez tourné avec Chabrol. Il disait de vous, François, c'est le Pacino français. Et personne ne s'en rend compte, c'est un comédien instinctif, réfléchi, expressif et sobre, souple, passe-partout. Les gens du métier ne savent pas trop où le mettre.
Vous lui avez offert du chocolat aussi?
Mais j'aurais dû. c'est, Chabrol, c'est vraiment une des chances de ma vie, quoi.
Ouais.
Quand vous rencontrez un type aussi chaleureux, intelligent, érudit, il vous en fout plein la poire, quoi. Ensuite, il dit une générosité. Tous ses tournages étaient joyeux, quoi. C'est absolument essentiel. Il disait, n'oubliez pas qu'avant de tourner, on vit. Donc il y a toujours cette présence de tous les techniciens, ouais. Ce n'était que où est-ce que t'as bouffé hier, enfin, ils se connaissaient tous depuis 25 ans. Il y avait un cœur chez lui absolument fantastique. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que après ce rôle-là, il m'a imposé dans l'enfer qui était un très beau rôle.
Les fantômes du Chapelier, rien ne va plus, ouais. Une affaire de femme. Et quand je pense à ce film Cheval d'orgueil, ça me fait penser à Normandie nue puisque tout d'un coup il y a cette envie-là aussi de faire un tournage avec des gens du cru, avec des pros mais pas non plus des grandes stars, alors que Chabrol aurait très bien pu convoquer des grandes figures. Il y a encore ce lien-là avec ce film-là et avec vous, finalement, encore vous.
Oui, c'est vrai. Je me rappelle, je m'étais fait pousser la moustache. J'ai une espèce de balai brosse orange qui était là. Et alors, j'étais très content de moi parce que je trouvais que c'était parfaitement le rôle du paysan bigoudin du début du 20e.
Astérix, quoi.
Ouais, un peu. Et puis, un jour, les assistants disent, ah, ce soir, on sort, on va danser, tout ça. Ouais, génial, on va dans une boîte. Et on se pointe dans la boîte. Et alors là, il y avait des filles et tout ça qui disent, mais c'est qui a le rôle principal? C'est lui là-bas. Oh, quelle horreur! Complètement à côté de la plaque, la moustache dans les années 80, la moustache de bouseux. Et ça, souvent, tu le payes, quoi. Tu te dis merde.
Ah ben, la moustache et la mèche, là, faut se méfier.
Pour revenir
sur jaune orange.
À ce que disait Leïla et sur l'angle de Chabrol, est-ce que vous avez ressenti déjà ce problème que la question que peut se poser un réalisateur entre prendre des notoriétés pour être bankable, pour avoir les budgets, les financements, l'apport des chaînes, les aides à la distribution et ainsi de suite. Et que les comédiens ne soient pas trop marqués, justement, pas trop connus pour être encore plus crédibles dans les rôles qu'ils vont jouer.
Je comprends ça, mais enfin, le cinéma est fait ainsi, c'est-à-dire que c'est aussi les chaînes qui sont d'accord d'avoir Tartempion plutôt qu'un Tartempion que personne ne connaît.
C'est encore un produit, quoi. Ouais.
Ensuite, je dirais, pour défendre les acteurs, parce que moi j'aime les acteurs, les actrices, je dirais que ça dépend ce que vous avez à jouer, hein. Tout le monde, il y a une phrase de Guitry qui est drôle, c'est nous sommes tous des comédiens sauf quelques acteurs. Donc si vous avez une partition du genre, bonjour madame, je voudrais une baguette. Normalement, n'importe qui de correctement constitué va y arriver. Mais si vous avez une scène de craquage ou une scène d'amour ou une scène délicate, là, c'est là où notre métier entre en jeu. C'est-à-dire que comment nous, on peut préparer en amont une scène délicate, comment on peut, avec son partenaire, essayer de s'abandonner. Voilà, il y a deux acteurs. L'acteur que nous sommes tous, mm-hmm. qui a quelque chose de simple à jouer. Et puis, d'un seul coup, les acteurs qui se retrouvent avec des trucs où franchement, si vous n'êtes pas professionnel, on risque d'y passer du temps, quoi.
Et vous dites de Chabrol que sans lui, vous seriez devenu un acteur fasciste. Ouais, en tout cas une sorte d'acteur élitiste qui joue seul et qui joue seul, qui se regarde jouer, et qui n'aurait qu'une seule idée, c'est gagner de l'argent en fait. Vous dites qu'il a quand même beaucoup changé votre vie parce qu'on parle tout d'un coup de votre affection pour lui, mais ça va plus loin que ça dans votre façon de jouer, même de penser le métier.
Disons que c'est en rencontrant un artiste aussi important que lui que je me suis dit je vais essayer de diriger ma carrière plutôt artistiquement plutôt que populairement.
Ouais.
Donc j'ai fait beaucoup de films d'auteur et tout ça, mais c'est vrai que quand j'ai débuté, d'abord, la situation sociale qui était la nôtre, avec mon frère et mon père, faisait qu'on avait un grand besoin d'ascenseur social. On voulait quitter ce commerce et faire d'autres choses. Et puis après, moi j'étais comme un voyou, hein. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes fils de commerçant, vous passez votre vie sur le trottoir, très vite vous avez la liberté avec le vélo ou la mob de vous déplacer. Et donc je voyais ça un peu comme une épreuve de voyou, c'est-à-dire on joue tout seul. Enfin, c'était ouais. L'idée que j'avais en voyant les acteurs. J'ai une idée, c'est vraiment typique du type qui à qui il faut pas marcher sur le pied, quoi. Et assez rapidement, j'ai eu la chance par le théâtre de rencontrer des actrices, des acteurs qui étaient complètement passionnés, qui se foutaient complètement d'être célèbres ou pas. Et je me suis dit, ça va me rendre service en vieillissant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 62 piges, je préfère avoir fait une carrière en ayant l'artistique en tête, même si j'ai pas toujours réussi, plutôt qu'en ayant la bagarre en tête et comment je peux y arriver en niquant les autres.
Le braquage, ou
l'opportunisme, ouais, c'est ça.
Je pense qu'humainement, c'était plus intéressant, même si ça a été plus long.
Ouais,
de fait,
ouais,
parce que on m'a
c'est
proposé...
plus payant finalement.
Bah, quand on a la chance de vieillir, ça devient payant.
Quand ça finit bien, ouais, c'est positif.
Normandie nue, en tout cas, fait partie de ces films que nous vous recommandons, qui sort demain, réalisé par Philippe Leguet, avec François Cluzet, François-Xavier Demaison, Toby Jones, Arthur Dupont, Grégory Gadebois, Philippe Robot, entre autres, et puis tout un casting de... Alors, c'est les habitants de Mail-sur-Sarthe ou c'est les habitants d'un autre...
Oui, ils sont tous limitrophes du Mail-sur-Sarthe, puisque c'est Philippe qui avait une maison de famille là, et qui les a tous rencontrés.
Ah, tu vois, c'est comme ça, là. C'est comme ça, tout est passé de là. Vous pouvez être tranquille. Il a changé les comptes. Deux, trois lots de terre supplémentaire. Ouais, très bien. Le Normandie nu, c'est demain au cinéma. Et tout de suite à la radio, c'est Frédéric Sigrist.
Bonjour François Cluzet. Alors vous savez, sur France Inter, la ruralité, c'est une cause qui nous tient à cœur et c'est également le sujet d'une de nos émissions phares. Cahier de Cambrousse, bonjour. Pour cette première semaine de janvier, nous faisons un petit tour par la Normandie avec pour première étape le petit village de Mêlé-sur-Sarthe. Un village de 700 habitants dans le département de l'Orne qui a vu il y a 4 ans la création du ZGEIG, Z-G-E-I-G, une zone de groupement d'écologie intercommunale garantie. Le ZGEIG a mis en place un système de surveillance et de nettoyage écologique et solidaire qui vise à protéger la biodiversité et à débarrasser les forêts normandes des déchets humains tels que les canettes, les mégots ou les chasseurs dans lesquels on retrouve bien souvent les deux à la fois. En effet, selon les statistiques du ZGEIG, l'élimination pure et simple d'un chasseur reste le geste écologique le plus simple pour protéger la biodiversité locale. Le ZGEIG a aussi créé un atelier coopératif, sodomie et macramé, afin d'apprendre aux citoyens à limiter d'eux-mêmes le nombre des naissances et donc les émissions de gaz à effet de serre. Les week-ends du 27 et 28 janvier prochain auront lieu à la salle des fêtes de Mêlé-sur-Sarthe, deux journées portes ouvertes et cul tendues pour celles et ceux qui désireraient découvrir le ZGEIG. Je vous invite à consulter le site internet lezgeig.com. Nos invités du jour dans le cahier de Cambrousse sont Georges Babuzard, le maire de Mêlé-sur-Sarthe, qui a également lancé une initiative novatrice d'économie solidaire intitulée « À poil pour du blé », qui n'a rien à voir avec l'association de notre confrère et néanmoins ami Daniel Morin, qui porte le même nom mais affiche des ambitions différentes. À nos côtés également Michel Fourniret, c'est un homonyme, qui vient de lancer une grande opération d'aide et de partage, 2 migrants achetés, un Parisien offert.
France Inter, cahier de Cambrousse, Jean-Luc Bertrand.
Bonjour Georges.
Bonjour.
Alors Georges Balbu, pour les intimes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de dévêtir le monde agricole ?
Eh bien, c'est très simple. Hein. On a décidé d'indexer le prix du lait et de la viande sur nos vêtements. J'explique aux auditeurs, plus le prix de la viande est bas, plus on est cul nu.
Et vu que les politiques restent sourds aux cris de détresse des paysans, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le meilleur moyen de lutter contre la surdité, c'est la nudité ?
Disons que si l'État ne comprend pas qu'on est à poil, là au moins il le voit.
Je vous remercie Georges. Maintenant nous allons rejoindre Michel. Bonjour Michel. Alors vous Michel, dans cette période de repli sur soi, vous avez décidé d'aller en sens inverse en lançant l'opération 2 migrants achetés, un Parisien offert. En quoi ça consiste ?
Eh bien je veux que ça part d'un constat simple. Les Parisiens, ils rêvent de vivre à la campagne, alors que les migrants, ils rêvent de bosser en ville. Donc on s'est dit, on n'a qu'à échanger.
Mais je me fais l'avocat du diable. Deux migrants pour un Parisien, le principe d'équivalence n'est pas respecté.
Attendez, un Parisien, c'est bien plus chiant pardon, que deux migrants. Le migrant à la campagne, il s'intègre. Le Parisien, il nous fait chier. Le week-end, il veut pas qu'on fasse de bruit parce qu'il se repose. Il est jamais là la semaine, mais il veut que tout soit ouvert le dimanche. Non, je vous jure, un Parisien, c'est deux fois plus compliqué à intégrer qu'un migrant.
Merci Michel. Demain, nous poursuivrons notre périple normand en nous rendant à Alençon pour rencontrer Bernard Jeffémou qui vient d'écrire un livre sur les AMAP intitulé « Les légumes de saison, c'est bon, mais j'en peux plus, des potimarrons ». À demain.
Merci, Félix. La bande originale. Quel casting avec François Cluzet et Daniel Morin en special guest. Nous allons reparler évidemment de Normandie nue avec François Cluzet qui est notre invité. On va également parler tout à l'heure du monde agricole avec Isabelle Saporta qui a publié le livre noir de l'agriculture en 2011, livre et enquête sur l'agriculture française. Elle participe également à des émissions de radio chez nos confrères d'Europe 1 pour parler de cette crise agricole et mieux la définir. Ça fait rire quand je dis les confrères d'Europe.
Non, je souris parce que je suis d'humeur joyeuse. Je suis contente de voir François Cluzet.
Les primes sautières.
Exactement. Et François, justement, en 1968, vous avez une révélation en voyant sur scène.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs.
Et vous dites, c'est votre première émotion, Jacques Brel. qu'à la maison, il n'y avait pas trop de place pour les émotions.
Bah, c'est-à-dire qu'on avait plutôt intérêt à cacher les émotions, c'était plutôt mal vu. On était dans une situation un peu précaire, mon père nous élevait, mon frère et moi, et on vivait dans ce commerce avec mes grands-parents, tout ça n'était pas très, très agréable. Alors évidemment, ma tante disait tous les ans, au 31 décembre, on va voir Annie Cordier dans Hello Dolly et tout ça, moi j'adorais ça. Et puis une année, elle arrive dans la boutique, elle dit, non, cette année, il y a Brel qui passe, on va voir Brel. Alors mon père lui dit, et les petits? Oh, les petits aussi. On s'est retrouvés le 31 décembre, on va voir Brel dans L'Homme de la Mancha, on a pris, moi j'avais pris une claque, mais colossale, au point, je me souviens, j'étais jeune, mais je l'ai vu pleurer, hurler, chanter. Et je me suis dit tout ça, je me suis dit, il va se faire engueuler, quoi. On peut pas se mettre dans cet état. Parce que, évidemment, chez moi, s'il y en avait un qui parlait de ma mère, il se faisait tout de suite flamber. Et s'il y en avait un qui dit moindre truc, ça va, t'es pas content. Et donc, et ensuite arrive la fin du spectacle où il était en nage, en sueur, pleurant, les larmes se mêlant aux gouttes de sueur. Et là, je vois. Toute la salle se lève pendant 20 minutes et l'applaudit. Je dis, bon, je veux faire ça.
Et il est payé pour ça.
Oui,
il est payé pour ça.
J'ai pensé à ça, mais je me suis dit, je veux faire ça. Ouais. Parce que.
Émouvoir, en fait.
Oui, chacun de nous, dans notre enfance, on avait quand même très souvent envie d'ouvrir sa gueule. En disant, ça va pas, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mes potes, ils vivent pas comme ça. Donc là, j'étais complètement subjugué. Et évidemment, ça m'est resté parce qu'après, à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai découvert à quel point Brel était une idole.
Et comment il avait touché énormément de personnes. Alors, vous commencez à ce moment-là de votre vie, vous dire, je vais devenir une superstar, je vais devenir un Brel aussi. Et vous donniez des interviews imaginaires, je crois.
J'ai jamais pensé devenir un Brel, parce que j'ai quand même une Brel peut-être, mais non, mais
un
Brel, non,
un chanteur,
parce que c'était trop haut. Hein. Ouais. Mais disons que j'ai toujours voulu être célèbre.
Ouais.
Donc, je devais avoir 7-8 ans, je commençais déjà à vouloir être célèbre, je donnais des interviews imaginaires. Mais à ce moment-là, je me pensais pilote de Formule 1. Donc, on me demandait d'aller faire une course, d'aller acheter n'importe quoi, il suffisait que je double une vieille dame avec un panier, et en la doublant, je m'interviewais. Alors voilà, ça y est, vous venez de prendre la première place. Donc François Cluzet, voilà, en tête de la course, et la course terminée, il passe encore en tant que premier, et je répondais toujours modestement. Oui, mais j'ai une bonne voiture. Je faisais la modestie. Je me suis beaucoup amusé ça, parce que ça a duré jusqu'à temps que je fasse vraiment des interviews. J'avais un manque de ne pas être interviewé depuis que j'étais petit.
D'être regardé, d'être...
Il faut qu'on me demande mon avis.
Non, mais c'est ça. J'ai compris que ça comptait position dans le studio tout à l'heure, vous vous souvenez ou pas? Premier, deuxième?
Ce qui est drôle, c'est de penser à jouer la carte de la modestie pour être encore plus admiré pour le mérite. Quel talent! Non seulement il a du talent, mais en plus, il veut même pas le dire qu'il a du talent.
Puis je voyais tous les grands à la télé, étaient toujours les plus simples et les plus humbles. Donc, fallait copier là-dessus.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment autorisé à passer le pas, à devenir artiste?
C'est une espèce de concours de circonstances, parce que j'avais aussi un petit orchestre de rock à 10 ans, il y avait un guitariste, un batteur, et alors on chantait Lady Madonna et Nights in White Satin, dont je connaissais pas les paroles. Donc je chantais ça en yaourt, Lady Madonna, et le guitariste avait trois sœurs de 3, 5 et 7 ans, et qui me regardaient comme si j'étais un dieu vivant. Donc je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et puis après, l'idée de chanter m'a effrayé. Je me suis dit, mais j'écris pas les chansons.
Oh, vous êtes venu chanter avec Marc Lavoine dans Taratata.
C'est vrai, c'est vrai. Mais l'idée de chanter, je me suis dit, mais donc il va falloir que j'aille voir des gens en leur disant, tu peux pas m'écrire une chanson. Ça m'a horrifié. Je me suis dit, oh là 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 là. Et puis, j'avais un mec dans ma classe dont le père était acteur. Et il m'a dit, tu ferais bien d'être acteur. Si tu veux, je te présente mon père. J'y suis allé. C'était Jacques Morel. Et qui m'a dit, je vous déconseille fortement de faire ce métier. Et là, je suis sorti en me disant, je l'emmerde, je le ferai quand même.
1979, vous écoutiez.
Et en 79, c'est votre premier film, François, c'est Cocktail Molotov de Diane Curis. Comment se passe le tournage, ce premier tournage?
C'est très délicat pour moi parce que j'étais très exigeant comme un con. C'est-à-dire.
Vous avez 23 ans, hein?
Ouais, mais alors comme je venais du théâtre, que j'avais joué Jeunet, Marivaux, des choses comme ça, je pensais que le premier film, ça allait être un chef-d'œuvre, évidemment. Donc j'étais très déçu. Je me suis dit, bah merde! Et puis le film n'a pas marché, alors là, ce qui a fini ma déception. C'est-à-dire que quand vous débutez dans un film qui ne marche pas, on ne va pas reparler de vous tout de suite. Hein.
Donc vous râlez, c'est quoi l'idée, c'est de...
Ouais, bah je me dis, je ferai pas de cinéma, je m'en fous, c'est de la merde, je ferai du théâtre, et puis c'est tout, quoi. Et arrive Chabrol derrière, voilà, évidemment. Alors Chabrol, c'était très drôle, parce qu'il me fait rentrer dans son bureau, il me dit, tu mesures combien ? 1m74. C'est parfait ! Je viens d'engager une actrice qui fait 1m60, faut pas un mec trop grand. Engagé sur la taille, quoi.
Ça tient à rien, en fait. Hein ? Ça tient à rien,
ça finalement. Tient à rien du tout.
Et qu'est-ce que...
Ça rejoint le problème de Normandie nue, hein, c'est la taille qui compte.
Et quel regard vous portiez sur les comédiens qui avaient à peu près votre âge ? Vous les pistiez, justement, dans votre rapport à la concurrence et à l'envie d'être une vedette ? C'était quoi l'idée ?
Mais c'est-à-dire, je dis toujours à mes
enfants... le meilleur de sa génération, tu veux dire. Ouais.
Mais c'est, je dis toujours à mes enfants, c'est aller dans des cours uniquement pour voir ce que les autres qui ont la même envie que vous, comment ils s'y prennent. Et donc, dans les cours privés, on n'apprend pas à jouer à la comédie. D'abord, ça ne s'apprend pas de vivre, puisque nous, notre métier, c'est pas trop de jouer, c'est d'être des interprètes, on donne de la vie à ce qu'on nous demande, quoi. Mais on surveillait tous. Quand je suis rentré au cours Simon, il y avait Ariel Dombasle et Carole Bouquet. Et moi, j'avais jamais vu autant de femmes de ma vie. D'abord parce qu'en classe, il n'y en avait pas à cette époque-là. Et qu'ensuite...
Surtout à Stan, vous étiez à Stan, non ?
Ouais, j'étais à Stan, voilà, c'est ça, le problème était réglé chez les curés. À Stan, ils avaient trouvé un truc fantastique. Pour les cours de catéchisme, ils nous permettaient de fumer. Donc ils n'ont jamais eu autant de clients, quoi. C'est dur, on était dans un petit truc de 20 mètres carrés où il y avait un épais nuage de fumée, parce que tous les mondes de 13 piges
fumaient. Et de la beuh en plus, hein, c'était n'importe quoi.
Je reprends l'idée pour ma camionnette.
Qu'est-ce que je dis en 1900 ? Non, en 2007, vous retrouvez à écouter du Otis Redding. Oh, precious lonely, more to me than any love. Et c'est là où on se rend compte que les chanteurs, entre guillemets, qui chantent, c'est une chose, ceux qui interprètent et qui jouent, parce que là, il y a
une incarnation.
Il y a incarnation totale, ça donne une autre chair de poule.
Ah ouais, c'est drôle, j'apprenais ce matin que c'est les 50e anniversaire de Doc of the Bay, qui nous a tous fait danser, rêver.
Absolument, ouais.
Otis Redding, c'est fantastique. J'adore cette musique, toute la soul, le funk.
Vous l'écoutez à quel moment de votre vie, de votre journée ? Est-ce que c'est le réflexe du matin de mettre de la musique en vous réveillant ou...
Non, c'est surtout Guillaume Canet qui nous mettait toujours les musiques de la scène avant qu'on la joue. Il disait, je vous mets la musique que je vais mettre, parce qu'il sait très très bien la BO qui est venue. Comme ça, vous avez le mood un peu de la scène.
Ouais, c'est une bonne idée.
Vous mettez Otis Redding, on se dit, bon, alors là, il y a un peu de nostalgie, un peu de peine, mais en même temps, j'ai la force de la soul. Donc, on a écouté pendant le tournage.
Vous écoutez la BO avant
de tourner. On écoutait la BO, c'est un truc de Canet. Toujours, il balance la musique en premier.
C'est sur le tournage de Ne le dis à personne en 2007 qui vous vaut le César du meilleur acteur pour votre rôle. Et vous parlez aussi beaucoup de Guillaume Canet. On a évoqué Chabrol, mais Canet comme ce réalisateur qui, à un moment, vous donne une chance incroyable, à un moment où personne ne vous attend.
C'est vrai, c'était une chance formidable, c'est pour ça que je lui dois beaucoup, parce que c'est lui qui m'a rendu un peu populaire, parce qu'avant j'avais fait à peu près 40 films d'auteur, qui sont tous, évidemment, n'ont jamais marché, et alors les producteurs disaient, mais c'est le chat noir lui, je veux dire, personne ne vient voir aucun de ses films, et là Canet arrive avec un truc que je sens bien, une production, Alain Attal, je sens bien que c'est gros, d'un seul coup il me parle de mes partenaires, je lis le script, je me dis, merde, c'est la chance de ma vie, quoi, c'est un rôle en or, donc je vais le voir dans un bistrot pour se parler, il me dit, qu'est-ce que tu penses, hein, ça te plaît, ça te plaît pas ? Je dis, écoute, non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je vais me mettre au boulot tout de suite, ouais. C'est la chance de ma vie, un rôle pareil. Donc on a fait ce truc-là, on l'a fait bien d'ailleurs, en collectif.
Ouais. Hein. Guillaume Canet, vous allez retrouver dans la suite des petits mouchoirs au printemps.
Il en a question.
Ben, il en a question, donnez-nous la réponse.
On va certainement faire la suite, mais vous voyez bien pourquoi je traîne des pieds, c'est parce que Guillaume nous a dit il y a 2 mois, ne parlez pas du film.
Ah, okay.
Donc nous, évidemment, vous savez, on a des bons soldats, quoi. Le patron a dit, vous n'en parlez pas, on n'en parle pas.
Et finalement, connaître le succès en 2007, vous le dites, c'est tard dans une carrière. Quel est l'avantage ? Parce qu'il y a forcément quelque chose de positif à retirer de ça.
Je pense déjà, on n'a pas la cocotte minute qui pète, comme vous l'avez eu pour Devers, pour beaucoup d'acteurs, Adjani, des gens qui sont devenus célèbres à 17, 18 ans, 20 ans. Vous imaginez qu'en un seul coup, on vous explique que vous êtes un génie, ouais. C'est très difficile à porter. Donc moi, j'ai eu cette chance...
C'est difficile de ne pas le croire, déjà, quand on a 17 ans.
Ouais, difficile de ne pas le croire.
De pas le croire.
Et puis, il y a tellement autour de vous une telle sollicitation, où vous dites, j'ai dû passer à côté de ce que je suis vraiment ce mec génial, quoi. Et là, on se prend les les pieds dans le tapis, ça peut coûter cher. Moi, j'ai jamais eu cette occasion-là. J'étais arrivé à 50 piges. Bon, j'ose espérer que j'avais un tout petit peu de maturité et que je l'ai plutôt pris entièrement positif, sans me remettre en question, quoi. Et encore plus longtemps.
Et en 2011, le carton. Earth, Wind & Fire dans la BO d'Intouchable, alors là c'est...
19 millions d'entrées en France, 32 à l'étranger, je pense que les chiffres ont encore évolué depuis. Nakash Toledano, le carton, et vous rappelez toujours avec beaucoup d'humilité, comme dans vos interviews imaginaires, que le rôle initialement n'était pas pour vous.
Je me rappelle pas de ça. Parce que le rôle n'était pas pour vous, s'il n'était pas pour moi, je l'aurais pas accepté. Non.
Mais initialement.
Non, un autre comédien avait.
Non, ils l'ont proposé à Daniel Auteuil, pour qui j'ai énormément d'admiration, parce qu'on a débuté ensemble. Et Auteuil n'a pas voulu le faire parce qu'il était au montage de son film. Et que je pense que d'un seul coup, il se dit, c'est difficile à faire ce rôle-là, et c'est pas payant, quoi. Je sais pas comment il a fait, moi j'ai un grand respect pour lui. Mais enfin, coup de cul, c'est comme il l'a refusé, moi je l'ai accepté, quoi.
Ouais. Et idée géniale, puisque là, tout d'un coup, on vous voit aussi différemment. C'est aussi ça, non seulement c'est un carton intouchable, mais j'ai la sensation qu'on accède à un personnage à travers vous qu'on n'a plus envie de quitter.
Je ne me rends pas compte de ça. Est-ce que ce dont je me suis tout de suite rendu compte, c'est que beaucoup de choses étaient liées à la chaise, au fauteuil d'handicapé. Quand le fauteuil est arrivé, ils m'ont dit « Viens voir !» Et je savais que j'avais un rendez-vous avec le fauteuil. Tous les acteurs ont leur secret. J'ai dit « Non, mais barrez-vous, laissez-moi tout seul avec le fauteuil. » Puis je me suis, comme je fais beaucoup de moto, j'ai commencé à me mettre dans la tête « Bah voilà mon pote, prochaine fois tu feras gaffe à ce que tu bois avant de prendre ta bécane. Maintenant t'es dans le fauteuil et tu vas rester comme ça. » C'est une espèce d'émotion en me disant « Merde, putain, j'ai foutu ma vie en l'air. » J'ai gardé cette espèce de fond d'émotion. Et puis ensuite dans le script, parce qu'on a travaillé à la maison avec Omar et avec le metteur en scène, je me suis dit, bon bah c'est simple, moi il faut que je le serve à fond, c'est-à-dire et dans ma tête d'un seul coup je me suis dit, bah oui mon pote, mais ça peut te faire vachement de bien humainement d'avoir ce sens de l'abnégation. Donc j'étais obsédé par le fait, parce que je l'avais bien lu, que c'était Omar qu'il fallait valoriser, comme dans Autour de minuit c'est Dexter Gordon qu'il faut valoriser, et je me suis dit, ça va m'apporter quelque chose maintenant que j'ai eu ces deux succès, je vais voir ce que c'est que de jouer pour un partenaire. Et alors comme je pouvais rien foutre parce que j'étais bloqué dans le fauteuil, je disais toujours à Omar, joue hein, tu joues pour moi, je peux rien faire, tu sais. J'étais son premier spectateur et lui, il était très content de me voir ne pas arrêter de rire, parce que Omar, c'est un seigneur, c'est un grand bonhomme, quoi. Il est très drôle.
Reparlons maintenant de Normandie Nue, ce film qui sort demain au cinéma, un film de Philippe Leguet avec François Cluzet. On parle de cette crise dans le monde agricole avec...
Avec Isabelle Saporta. Non, oui, c'était ça. Non, c'est ça. Pas ça. C'est... Moi, non, je me souviens de me placer là. Voilà.
Vous avez raison, mais je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais je veux bien le répéter. Avec Isabelle Saporta, mais surtout avec ce besoin de définir la crise agricole. Tout à l'heure, François Cluzet l'a dit, on a l'impression qu'elle a toujours existé, cette crise, et que le prix de la viande, le prix du lait, le niveau de vie des agriculteurs n'a fait que baisser.
C'est parce que vous êtes très jeune, Nagui, mais de fait, en fait, c'est quand même, il y a une accélération assez forte ces 30-40 dernières années. Et pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est, en fait, vous vous souvenez des Shaddock, vous vous souvenez de ces volatiles qui pompaient. Ouais, mais moi non plus.
Vous êtes trop jeune.
Mais c'est très gentil, mais moi aussi je connais les Shaddock. Et donc, quoi qu'il en soit, si vous voulez, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'agriculture moderne aujourd'hui, c'est on a mis les agriculteurs dans un modèle productiviste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un sens à ça. Hein. Il fallait nourrir la population française. On était au lendemain de la guerre. On manquait de tout. Et on les a mis là-dedans. Sauf que là-dedans, progressivement, si vous voulez, ils sont mis à surproduire dans un modèle qui s'est éloigné de plus en plus du bon sens paysan. Ils se sont mis en danger avec des pesticides, avec des produits phytosanitaires. En achetant ces pesticides, ces produits phytosanitaires, ils ont gagné de moins bien en moins bien leur vie parce que ça coûte du pognon. Et après,
c'est
on leur a acheté...
C'est ce qui est dit dans le film aussi.
Ouais, c'est ça. Et après, on leur a acheté leur nourriture de moins en moins chère. Et d'ailleurs, c'est très bien dit dans le film aussi, parce qu'il y en a un qui est bio et qui dit... Non, mais d'accord, qui vit mieux. Et qui d'ailleurs a gardé le Champcholet, mais qui va, voilà, suspense sur le Champcholet. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez, qui vit mieux, mais qui dit aux autres, non mais d'accord, mais sauf que comme vous faites de la merde, enfin il le dit pas comme ça, c'est moi qui soupire, mais au fond, pourquoi on vous la paierait si cher, quoi ? Et c'est vrai que c'est un des problèmes fondamentaux de l'agriculture aujourd'hui. C'est-à-dire, là, on sort des états généraux avec Macron, là, avec notre président de la République, et quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il en sort ? Ben, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de mettre des cotères sur des jambes de bois pour essayer de trouver un petit peu de pognon effectivement, à un secteur qui va très mal.
Comment font les agriculteurs, du coup, pour changer ? Parce que c'est difficile de changer du tout au tout, parce qu'on parle aussi des dettes qu'ils peuvent avoir contractées pour avoir du matériel. industriels, tout ça.
Et puis les terres sont polluées du coup par les pesticides et par il faut attendre un certain temps avant de pouvoir transformer son terrain en terrain bio. Oui.
Alors il y a une transition, c'est pour ça qu'on attend effectivement de la part de Macron là qui est en train de foutre en l'air toutes les aides effectivement pour la transition à la bio, qu'il arrête de le faire parce que juste ça a un sens effectivement d'aider les agriculteurs à ce moment-là. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que la terre, c'est comme les hommes, il y a une résilience incroyable. C'est-à-dire que très vite, au fond, on arrive à faire d'une terre qui a été pesticidée, traitée par les engrais, une bonne terre. Et au fond, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire dans la vie, c'est que tout est réversible. Donc oui, il y a des modèles où ça fonctionne, il y a des agricultures justement biologiques, il y a des gens qui font attention à leur sol et ça marche et ils gagnent bien leur vie. Le truc, c'est que... ouais.
Non, je vous en prie.
Je vous ai vu lever votre petite main.
Il nous annonce qu'il va nous mettre des claques après l'émission.
Pas à moi, parce que moi, je ne vous connais pas bien encore. Donc vous mais
j'ai jamais mis aucune claque à personne.
C'est un accident.
Je me réjouis tellement.
Monsieur le juge, je vous assure que...
Non, même quand il connaît, il ne fait pas. Ne vous inquiétez pas.
Si on lui demande gentiment.
Et donc, non, mais du coup, l'espoir est là. Et par contre, effectivement, ça ne viendra pas que des agriculteurs. D'abord, il faut quand même que change le syndicat majoritaire qui est la FNSEA, qui est dans une logique productiviste. Et après, il faudrait que les politiques aient un petit peu de cran et de courage.
Alors, c'était ça ma question. Ouais. Vous parlez d'Emmanuel Macron, mais chaque fois, on a l'impression que le monde paysan se tourne vers les politiques en disant « on est en crise, faites quelque chose ». Est-ce que ça serait pas à eux de décider de leur propre destin, de se prendre en main et pas spécialement d'attendre une décision, qu'elle soit européenne ou franco-française?
Alors là où vous avez raison, c'est que ceux qui ont changé de modèle l'ont fait tout seul et se débrouillent très bien. Mais là où vous avez tort, si je puis me permettre, c'est qu'aujourd'hui la politique agricole commune, c'est à peu près 10 milliards qu'on met chaque année en France dans l'agriculture. Si ces 10 milliards, on les mettait ailleurs que dans une agriculture productiviste, donc on met 10 milliards dedans, et après on met des centaines de milliards pour la dépollution de l'eau, ça irait mieux. Sauf que pour ça, il faut du courage politique et jusqu'à présent, force est de constater qu'on en a manqué un tout petit peu. Donc moi, je comprends qu'ils se tournent vers les...
Vous dites quels que soient les gouvernements depuis que la question se pose.
L'absence de couilles est quelque chose de très très partagé.
C'est pas si simple que ça, non ?
Oui, mais rien n'est simple hein, dans la vie. C'est comme d'arrêter le nucléaire, c'est pas simple non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, on recule. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, c'est possible. On a eu des chances incroyables de le faire, notamment avec l'Europe, parce que c'est vrai que c'est l'Europe aujourd'hui qui finance essentiellement l'agriculture. Et à chaque fois, ce sont nos propres lobbyistes, c'est-à-dire le syndicat majoritaire, qui montaient au créneau pour ne pas le faire.
François Cluzet, vous avez parlé avec les paysans, justement, des solutions. Je parle entre deux scènes de tournage au catering en bouffant. Avec eux.
Bien sûr, mais là vous avez pratiquement donné le panorama de leur situation.
Mais eux, ils disent quoi, justement ?
Eux, ils attendent beaucoup de la politique, parce qu'ils estiment qu'ils ont été vraiment totalement exploités. Comme dit dans le film, on a nourri la France depuis des siècles, et maintenant c'est nous qui crevons de faim. Faut aussi penser aux agriculteurs du début du siècle précédent, où franchement, ça frôle le lumpen prolétariat. Hein. C'est jamais eu une bonne condition d'agriculteur. Alors, ce sont des passionnés aussi. Moi, je les connais, puisque c'est ma famille. Et donc, je vois bien que, bon, il y en a un qui est obligé de travailler à Saint-Gaudens, parce que autrement, le pouvoir d'achat n'existerait pas avec la ferme. Mais enfin, vous les ferez pas changer cet amour de la terre et cette nécessité. Ils sont nés paysans et mourront paysans. Et leurs difficultés sont nombreuses. On en parlait et en même temps, on se disait presque qu'un tournage, c'est quelque chose de très chaleureux et que finalement, vivons cette parenthèse ensemble, dans le goût du collectif.
Pour oublier le quotidien.
Et malheureusement, vous allez le retrouver derrière le film, quoi. Sauf si le film a un écho et que d'un seul coup, la politique ou les gens s'intéressent à la situation des agriculteurs.
Est-ce qu'il y a, non pas trop d'agriculteurs, mais est-ce que les nouvelles générations hésitent à reprendre les terres, vu les difficultés rencontrées ? Et est-ce que c'est un vrai problème pour nourrir, justement, parce qu'on parle de productivisme,
Mais il y a aussi une nouvelle tendance qui est le parigo qui
quitte la ville. Oui, mais le parigo ne fait généralement pas long feu, ou en tout cas, je pense qu'il ne produit pas.
Il fait long feu, il ne reste pas longtemps.
Voilà, mais est-ce que, il y a une vraie question sur le nombre d'agriculteurs, sur ce dont on a besoin en production aussi directe ? Qu'est-ce que vous dites à ça ?
Alors, vous avez tous les deux raison, en fait. C'est-à-dire que là où vous avez raison, Non, je suis parfaite. Moi, je pense que je suis. Et en même temps, je suis quasiment prête pour devenir présidente de la République. Voilà. Et quoi qu'il en soit, alors, là où vous avez raison, Leïla Khatour, c'est que effectivement, de plus en plus d'enfants d'agriculteurs qui ont vu leurs parents dans un modèle productiviste ne veulent pas reprendre. Oui. Un, ils ne veulent pas reprendre. Deux, ils ne peuvent pas reprendre parce qu'ils sont tellement lourdement endettés que reprendre, c'est reprendre des dettes. Donc, c'est vrai que tout cela arrête le plus souvent. Et là où vous avez raison, Nagui, c'est que de plus en plus, un tiers aujourd'hui des installations, ce sont ce qu'on appelle des néo-paysans, des néo-ruraux, qui heureusement résistent mieux que François de Maison dans le film, parce que lui, effectivement, il fait une grosse allergie quand même à la campagne.
À la nature,
hein. Donc, le pauvre, effectivement, cette scène est quand même inouïe, où quand la masseuse lui dit, il dit j'adore la campagne, et qu'elle dit, la campagne, vous aime pas tellement en revanche, donc ça, c'est vraiment très, très, très drôle. Mais c'est vrai que, donc, il y a aussi cette porte ouverte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va changer de logiciel, on va arriver vers autre chose, d'autres gens qui ont eu d'autres expériences avant et qui donc verront pas leur métier de la même manière.
Isabelle Saporta-Signe, le livre noir de l'agriculture, c'est chez Fayard. Chez Albin Michel, vous avez signé Foutez-nous la paix. ouais. C'est votre dernier en date, c'est ça vous...
Non, j'ai fait du courage entre-temps pour les hommes politiques, mais j'ai pas l'impression que ça ait donné grand-chose. Ils se sont rendus compte
que c'était pas indispensable pour le métier. Choisissez
l'autre titre plutôt que le courage. Vous l'avez évoqué, non, tout à l'heure, plutôt les couilles.
Oui, ah, voilà. Mais en même temps, si les couilles, c'était là qu'était le courage, ça saurait.
Oui, je sais. Ouais,
c'est vrai qu'il y a des femmes courageuses.
Voilà. Vous avez l'air d'être vachement au courant.
Tanguy Pastureau, vous allez justement nous parler d'écologie.
Oui, car c'est important. Oui, car c'est important l'écologie. Hein. Si on continue de détruire notre environnement, il n'y aura plus de planète, donc plus de radio, donc plus de bande originale, et nous, on sera mort. Ce qui est terrible parce qu'on vient à peine de souhaiter bonne année. Alors, une étude montre que l'ennemi de l'écologie, c'est la virilité, justement. Bah, et je vais vous dire pourquoi.
Très bien, ça sera après les infos de midi. Soyez les bienvenus avec Leïla Khatour-Bounedi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Salut.
Albert Algou.
Bonjour.
Et notre invité, monsieur François Cluzet.
François
Cluzet qui est à l'affiche du film Normandie Nue, un film de Philippe Le Guay.
Philippe Le Guay dont j'avais adoré Les femmes du sixième étage. Je trouve qu'il a toujours cette façon bien. Dans son cinéma de
avec
documenter, voilà, de documenter, que ce soit là avec Normandie Nue, dans les femmes du sixième étage, il y a toujours ce rapport à une petite partie de la société qui donne à voir différemment. Et je trouve qu'il a toujours ce cinéma-là qui est dans une préoccupation du réel.
Qui permet en tout cas de voir une condition sociale à la fois et puis de ne pas oublier ce côté humain, on l'a dit.
C'est le temps à l'arrivée de...
Sur Normandie, avec donc François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier de Maison, Arthur Dupont, Grégory Gadebois, Philippe Robot, Patrick Dassoum-Sao, Normandie Nue, situation de crise dans les campagnes en Normandie, dans ce village de Melle-sur-Sarthe où les paysans ont beau faire des manifestations, ont beau crier, hurler face aux caméras et aux médias, ce qu'il en reste après montage et découpage aux actualités, c'est simplement le Parigot qui est là en disant « Mais ils sont formidables ces agriculteurs qui mettent les mains dans la terre !»
Normand Calouse. Très belle imitation Louis de Funès.
Et au bout de ça, le maire que vous interprétez, François Cluzet, se dit « Il faut qu'on trouve une bonne idée pour faire parler de nous. » Un photographe qui était justement bloqué dans ce même embouteillage, photographe américain qui est connu pour ses œuvres d'art, puisque ce sont des œuvres d'art, de prendre en photo des foules nues dans des lieux les plus incongrus dans le monde, a repéré un champ et se dit « Pourquoi ne pas faire une photo là ?» Et là, vous devenez son agent, son impresario pour convaincre tout le village de basculer et d'accepter cet effet de com'.
Oui, parce que je trouve l'idée complètement dingue, mais peut-être que celle-ci aura du retentissement. Donc finalement, la seule chose qu'on cherche, nous, les agriculteurs, c'est d'avoir un média, quelqu'un qui nous écoute. Quoi. Finalement, regardez... On parle pas souvent des agriculteurs, alors que c'est...
Que quand ils manifestent.
Oui, que quand ils manifestent, alors que le problème ne date pas d'hier. Quoi. Ouais. Donc il y a une situation urgente. J'entendais que vous disiez, c'est aussi ça, à mon avis, un film de divertissement. C'est un sujet de fond, et par-dessus, comment vous le traitez. Quoi. Si et c'était que le sujet de fond, ça serait un sujet d'actualité télévisée. Ça, ça,
et tous les points de vue sont abordés, sont présents, encore une fois, y compris le fait que la viande n'est pas forcément bonne pour la santé, y compris que le réchauffement climatique pointe son nez. journée, y compris que les pesticides sont présents et que les terres sont sont polluées, y compris que ils ont besoin de vendre des animaux et de la viande pour pouvoir eux vivre. Autre problème aussi, les intermédiaires, parce que la présence de ce supermarché, voilà, c'est ça, les distributeurs qui viennent et qui
étranglent
entre le prix auquel ils achètent le lait et le prix auquel ils le revendent. Ouais. Il suffirait d'un centime de plus par litre de lait pour que les
distributeurs qui eux en plus se sont mis beaucoup plus rapidement au bio, c'est-à-dire que eux ils ramassent de l'argent de partout.
Mmh. Ah bah ouais, mais donc je pose pas de questions.
Mais il y a des initiatives aussi qu'on peut voir pour acheter sa brique de lait en supermarché. Il y a des briques de lait sur lesquelles sont étiquetées que les paysans, on garantit que les paysans là sont mieux payés, qu'en tout cas il y a eu un accord plus intéressant. Donc c'est aussi en tant que consommateur, parce qu'on parle de ce côté-là, mais nous, notre pouvoir d'achat, à quoi on l'utilise?
C'est à nous de décider. Ouais, le commerce équitable n'est pas que avec des lointains.
À l'étranger, c'est être locavore, c'est aller voir son producteur. Exactement. C'est acheter aussi du lait local, avec un tarif qui est sans doute plus élevé que d'autres briques de lait en magasin. Mais en tout cas, on sait que l'argent a été redistribué de façon honnête et respectueuse en fait d'un travail.
Il y a une scène dans le film comme ça, où ils font un tour dans un supermarché et que la fille conseille de prendre une autre viande, c'est-à-dire une viande locale, seulement elle est beaucoup plus chère.
Ça s'appelle Normandie Nu, c'est demain au cinéma. Et à 12h12, il tacle l'info, il la maltraite, c'est Tanguy Pastureau. Alors Tanguy, vous m'avez posé la question hors antenne, je dois vous avouer, je préfère les femmes aux hommes.
Oui, moi aussi Nagui, dans Roméo et Juliette, j'ai toujours préféré Juliette, qui elle au moins n'était pas en train de brailler comme une conne sous un balcon, parce que l'autre lourd de Roméo, là, il a cru qu'il allait lancer tout seul la fête de la musique, 6 siècles avant Jack Lang, avec 0 subvention. J'ai toujours préféré les femmes. À l'époque de Téléphone, j'étais le seul fan de Corinne. Là, autour de cette table, où parade Sigonce qui pue le vieux slip, pour une seule dame, délicate et éthérée, oui, c'est de Leïla dont je parle, mais c'est crédible pour qui ne l'a jamais vue en soirée. Eh bien, je préfère Leïla. La femme est l'avenir de l'homme, disait Aragon. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé, je veux une femme like you, disait Camaro. Les femmes, j'en ai rien à battre, disait Hervé Villard. Il y a des millions d'œuvres autour de la féminité. Alors que les mecs sont juste représentés par 3 pauvres statues de grecs à micro-pénis en train de lancer des disques. On a l'impression de voir Philippe Manoff s'y tomber dans une brocante sur un 33 tours de Stoney Charben. Bref, les femmes nous sont supérieures. Dans Scooby-Doo, c'est Vera qui résout les énigmes et pas ce crétin de Scooby qui passe sa vie à flipper en disant « Ouh, Zémi, j'ai peur !» Hein, voilà, ça c'était juste pour placer mon imitation de Scooby-Doo. Hein, depuis 2011, je veux le faire, jamais trouvé l'occasion. Hein, j'ai aussi Barzy du bébé de Choune. Voilà, bon. Mais je m'égare, comme dirait Guillaume Pépi.
Talent.
Même en matière d'écologie, les femmes nous dépassent. Elles sont douces et gentilles avec la Terre. Alors que nous, les mâles, quand on voit la planète qui est ronde, ça nous donne juste envie de tirer un coup franc en buvant une Jeanlin. C'est statistique, la femme recycle plus. Exemple, Delphine Ernaut de France Télé, récemment mis texte dans la poubelle bleue. Et selon une étude menée par des scientifiques américains, si les hommes sont moins écolos, c'est à cause de leur virilité. Cette tare qui pousse l'homme à saluer ses collègues d'un vibrant « Salut mec !» Alors qu'en réalité, on préférerait tous avoir les cheveux de Patrick Juvet et se caresser les fesses les uns les autres sur un canapé de velours. Et là, je réalise qu'il faut que je cesse de parler de mes désirs perso dans mes chroniques.
Ça va s'entendre. Je vois pas en quoi la virilité empêche les hommes d'être écolos.
Eh bien, les auteurs de l'étude, Jim Question et Robert QCM de l'université de Bite-Miseneux, ont interrogé 2000 hommes. Et il en ressort que les mecs, alors c'est véridique, se sentent moins virils quand ils vont à la supérette avec un sac réutilisable. Ce truc que moi j'achète à chaque fois parce que j'ai oublié le précédent sac réutilisable.
Comme tout le monde,
Chez moi, j'ai 700 sacs réutilisables. J'ai transformé la chambre du petit en placard pour les ranger. Le petit dort sur le balcon. C'est le futur Mike Horn. Les hommes interrogés jugent qu'utiliser un sac réutilisable, surtout en toile, fait trop féminin. Hein, en plus, on doit scanner soi-même ses achats. Alors qu'avant, on posait tout sur la caisse en disant à la personne « Vas-y, femme, biplez mes croustichots. Bah. » Enfin, on le disait pas, mais on le pensait. Et notre virilité était au top. C'est pas un hasard si les premiers hyper s'appelaient Mammouth. Hein, moi, mon père disait « Je vais chez Mammouth, je voyais un Cro-Magnon. » Je me disais « S'il se lâche un peu, il va peindre ma mère à cheval sur un buff, sur le mur des toilettes. » Aujourd'hui, les mecs disent « Mon chéri, je vais acheter du quinoa chez Bio, c'est bon. » Le gamin, il se dit
dis ok, niveau virilité, il y a David Douillet, Tony Montana, Patrick Balkany, c'est pareil, Bob l'éponge, Louis Titi Pygmy, en dessous, papa. Alors les chercheurs ont ensuite confié, tout ça est vrai, hein, à certains hommes une carte cadeau rose. Eh bien ceux-ci ont acheté 3 fois moins de produits écolos que d'autres hommes qui avaient une carte cadeau neutre. C'est-à-dire que quand c'est féminin, rose, le mec compense, hein, à la sortie des salons de thé, féminin, tous les types font l'hélicoptère avec leur sexe, Enchanté Hunter Sandman de Metallica. Moi, hier, j'ai écouté Étienne Dao avec émotion, féminité. Bah, ce matin, j'ai fait un bras de fer contre Daniel Morin. Compensation, virilité, testicule. Bref, d'après cette étude très sérieuse, hein, sinon je vous en parlerai quand même, à cause d'un stéréotype écolo égale féminité, les hommes retrouveraient de la masculinité en détruisant l'environnement. Donc ne jugez pas Nicolas Hulot qui a 4 bagnoles de 1987 qui tournent au diesel. Il se farcit des écolos 24 heures sur 24. À un moment, Burny, la bête poilue en lui, reprend le dessus. Il se met aussi à chiquer. Et les soirs de pleine lune, il hurle. Enfin, une des expériences menées montre que plus un logo est viril, plus les hommes font des dons. Une association écolo ayant pour logo un loup hurlant a reçu 3 fois plus d'argent qu'une autre avec comme logo un arbre. Donc pour sauver la faune, il faut juste que le WWF garde pour logo son panda, mais en érection, en train de mater le Canal Football Club avec un t-shirt Rocco Siffredi d'Azit Better, et 100% des hommes font un don, on est sauvés. La virilité, c'est quand même le truc le plus con du monde. Vive les femmes!
Merci, Tanguy. La bande originale, la vie. Sur France Inter. Normandie nue. Ce qui est triste, alors évidemment c'est drôle ce que fait Tanguy, mais ce qui est triste c'est que l'étude est vraie. Ouais, c'est ça qui est plus inquiétant. Mais puisqu'on parle d'écologie, que ce soit avec Tanguy Pastureau ou avec Normandie nue, quel est, parce que vous êtes un acteur mais vous êtes aussi un citoyen, est-ce que vous avez, vous, un rapport avec l'écologie, avec l'agriculture, avec, vous avez beaucoup parlé de votre famille d'agriculteurs. Est-ce que vous êtes un mangeur de viande ou vous faites attention maintenant aussi à ce qui est bio, aux pesticides, aux glyphosates ?
Quand un végétarien vous demande si vous êtes mangeur de viande, vous pas très à l'aise dans votre réponse.
Non, tout va bien, tout va bien.
Non, mais allez-y, nous, on mange un peu.
Oui, bien sûr, c'est la prise de conscience déjà. On le voit avec les enfants, et une prise de conscience qu'on n'avait pas à leur âge. Maintenant, il y va de notre santé, et puis il y va de l'avenir de la planète. Donc, sur un sujet aussi important, vous voyez bien le mal qu'on a avec notre gros Trump là qui veut tout ignorer. J'ai l'impression quand même, en écoutant Macron hier en Chine, en disant ensemble on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que franchement il y a une telle urgence qu'on se demande déjà s'il est pas trop tard, puisque ces gens-là nous disent qu'il est trop tard. Bah, raison de plus pour accélérer le mouvement quoi. Donc il y va de notre bien-être et puis de l'avenir de nos enfants.
Est-ce que de la même manière que quelques musiques, quelques chansons ont pu changer la face du monde, vous pensez que le cinéma peut avoir justement ce rôle-là, social, politique et
c'est difficile parce
porter
que
des idées, des valeurs.
Le cinéma, avant tout, c'est un divertissement et pas autre chose. C'est très important de divertir les gens, surtout quand ils payent et qu'ils s'assiedent dans le noir. Qu'est-ce qu'ils doivent voir ? Quelque chose qui les fasse changer de voix. Ils viennent avec leurs problèmes, ils vont ressortir, leurs problèmes vont ressurgir. Mais en attendant, pendant 1h30, vous leur aurez raconté une histoire.
Ouais.
Donc, je ne crois pas aux vertus du cinéma sur la politique, mais sur la prise de conscience. Je sais que moi-même, quand j'ai vu à 21 ans, 22 ans, un film d'amour, d'un seul coup, je me suis dit « Ah, ça ne va pas du tout avec la nénette avec qui je suis. » Ça va pas du tout. On vit pas le quart de ça. Ça va pas du tout. Faut à tout prix que je change, quoi. Donc, des fois, on peut prendre conscience de là à changer la face du monde. Bah, c'est en rajouter beaucoup sur les vertus du cinéma.
Oui, c'est un film militant, Normandie nue. On peut le dire aussi ainsi, quand même.
Oui, il pourrait le.
C'est une comédie, mais c'est vrai qu'il y a un côté.
Militant. Ouais.
Il pourrait le devenir, mais comme l'école buissonnière aussi était un film militant pour préserver la nature, préserver les animaux sauvages. Oui, je pense qu'aussi les auteurs, ils ont à cœur de défendre quelque chose d'important. Ils partent pas d'une bluette en tant que sujet de fond. Et la comédie vient toujours derrière la tragédie. C'est la tragédie qui peut amener la comédie. Donc ensuite, la difficulté, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment rendre tout ça digeste. Ouais. Parce que s'il n'y a pas sujet de fond, ça devient une comédie d'humeur. Il n'y a pas beaucoup d'âme. En tout cas, pas moi, je suis incapable de jouer les comédies d'humeur. Mais le fond, faut-il encore qu'il passe, quoi. Et je me rappelle parce que c'était Chabrol dans l'enfer, ce film sur la jalousie où je joue un psychopathe. Je lui avais dit, on faisait le film, je lui ai dit, mais ça va être invisible, quoi. Le mec est dingo complètement. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais rendre tout ça digeste. C'est vraiment l'histoire du cinéma aussi, c'est faut être digeste.
Et alors, l'un des trucs qui est évidemment moteur dans Normandie Nue, c'est le regard des autres. Évidemment, le regard sur la nudité et ce que l'on accepte d'être vu nu par son voisin, sa voisine, le commerçant que l'on fréquente régulièrement. Est-ce que l'on accepte que sa femme soit vue nue par les autres?
Brigade Bois, imagine.
Là, il y a des réticences dans le village.
Ça, c'est, oui. C'est le problème du boucher.
Du boucher, surtout quand ta femme a été Miss.
Miss Calvados.
Pas forcément envie qu'elle soit exposée au regard de tous.
C'est ça. Il est un peu jaloux et c'est une espèce de sous-intrigue qui vient nourrir le film, mais le problème du regard des autres est valable aussi bien dans les rangs sociaux que dans la nudité ou le physique, et c'est l'une des valeurs portées par le film aussi.
Oui, c'est vrai, et puis la nudité, ça a toujours été une arme de contestation, ça l'est encore, et puis c'est la meilleure forme d'égalité qui soit, c'est-à-dire que nu, on est, c'est le cas de le dire, on est nu comme les autres.
C'est ce que dit la femme de François-Xavier de Maison dans le film, j'ai oublié le nom de la comédienne,
Julianne Roth.
Exactement, formidable. Qui dit, mais on est tous foutus pareil, dit à sa fille, puisque elle-même a été danseuse n'a pas de problème.
Au corps, voilà, c'est très ça. Libre.
Avec son corps. Et
la fille lui dit, oh non, maman, tu vas pas encore te refoutre à poil.
non, et puis il y a. Ah, non, mais j'ai pas toutes les comédiennes, je suis désolé, parce qu'il y a celle aussi dont Arthur Dupont tombe un tout petit peu amoureux, qui joue extrêmement bien aussi, qui était ouvrier laitière, et qui a, qui a une justesse dans le jeu. Le casting, en tout cas, c'est ça qui est fort, c'est que, oui, on se rend bien compte, pardon, avec tout le respect que je dois aux paysans, on se rend bien compte lesquels sont peut-être les vrais défauts, les paysans, dans quelques scènes, notamment au milieu des manifestations, on le voit, on le sent, mais la justesse des comédiens dans le film, en tout cas, est un régal à voir. Voilà, ça passe. Comme dans du beurre, on peut dire, pour la Normandie, on peut employer cette expression ou pas? Je regarde mes camarades.
Allez, on peut,
d'accord. Ah, quand même un blâme, ok, d'accord.
Normandie tu te limites tout seul.
Oui, tout seul. Normandie Nue, ça sort...
Quelle lucidité.
Ça sort demain au cinéma.
Il y a tendance à confondre le dernier tango à Paris avec
Normandie Nue. Non. Voici Daniel Morin.
Attention.
Quoi?
L'heure, pour ne pas dire l'époque, est grave. Qui sommes-nous? Que manigancent nos dirigeants? François Cluzet est-il vraiment François Cluzet? Tant de questions aussi essentielles qu'effrayantes. Alors complot, ou vérité cachée, ou accident de la nature, les thèses les plus folles ont envahi notre quotidien, et aussi chelou soit-elle, nous sommes encore beaucoup à les craindre, au pire, à y croire. Calmez-vous, madame. Eh oui, les Français aiment les rumeurs qui deviennent des complots, qui au final se transforment en théorie du complot. Selon une étude IFOP, un Français sur deux croit que le gouvernement est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher les dangers de la vaccination. Un sur trois pense que le sida a été inventé en laboratoire. Après, nous sommes nombreux à croire que les Américains n'ont pas été sur la Lune, que les images ont été tournées sur Terre, en studio, et qu'un ordre mondial mystérieux dirige le monde dans le plus grand secret. Et apparemment, un Français sur dix pense qu'il est possible qu'en vrai, la Terre ne soit pas ronde, mais plate.
Oh non.
Eh ouais. Et cela, je te le dis, t'es pas prêt de les envoyer en Californie. Non, trop dangereux. Si tu fais pas gaffe, tu tombes dans le vide. Moi, ces chiffres, ça m'a interloqué. Et moi, quand je suis interloqué, je fatigue. Et quand je fatigue, je m'allonge. Et quand je m'allonge, je dors. Et quand je dors,
je rêve.
C'est ça. Dans mon rêve, je suis chez moi en train de me reposer en regardant la télé éteinte. Quand, d'un seul coup, on frappe à la porte du salon. C'était mon épouse. Oui, je sais, c'est bizarre de frapper à la porte du salon, mais c'est comme ça. C'est un rêve et des choses étranges peuvent intervenir sans aucune forme de logique. Bref, ma femme rentre en panique.
Chérie, regarde le journal. Faut plus que t'ailles travailler à France Inter.
Mais pourquoi diable, morbleu?
Regarde, c'est écrit là. Révélation inquiétante, mais vraie. La maison de la radio est ronde parce qu'en réalité, c'est un vaisseau extraterrestre qui, un de ses quatre, va repartir dans l'espace avec à son bord des humains qui serviront de cobayes pour la science ou d'esclaves pour le sexe.
Non.
Si.
C'est sûr comme info.
Oui, enfin, c'est dans le journal d'enquête scientifique. C'est dans Jeune et Jolie.
Ah. Je connais Jeune et Jolie. Je sais que c'est un journal hyper sérieux, mais je me méfie de toutes ces théories du complot. On va attendre un peu pour voir si ça se confirme. Je reprends mon visionnage de la télé éteinte. On refrappe à ma porte. Oh merde, on peut pas se détendre 5 minutes. Ah, bonjour Père Albert, vous allez bien ?
Non, c'est l'apocalypse.
Mais comment ça l'apocalypse ?
Mais enfin, tu n'as pas entendu les infos sur Radio Courtoisie ?
Ah non, pourtant c'est ma radio préférée.
Moi aussi. Eh bien figure-toi que ça vient d'être scientifiquement prouvé. Augustin Trappenard n'est pas humain.
Bon, ça on le sait depuis longtemps, cet homme n'a aucune humanité en lui. C'est un monstre d'égoïsme, un enfoiré, un chien galeux, une saloperie.
Ça va pas.
Un douanier.
Non, mais vraiment, vraiment pas humain. Il est d'une autre planète, d'une planète hostile qui veut réduire notre espèce en esclavage. Mais ça se voit qu'il n'est pas de chez nous, enfin. Tu as vu ses yeux injectés de sang. Il a 10 doigts chaque main. Ses pieds sont palmés. Et je l'ai croisé au sauna, Daniel. Augustin a 24 testicules. C'est un extraterrestre.
Vous êtes sûr, sûr ?
Oh, c'est sûr que Jésus a marché sur l'eau.
Ah, bon. Je me fais toujours un peu de cette théorie. Hein. Je vais quand même encore attendre avant de paniquer. Et je me replonge devant l'écran noir de ma télécouleur. Et là, on refrappe à ma porte. Mais putain de vérole de Le Pen, quoi encore ? Oh, c'est vous, Maréchal Ganache.
Bon, l'heure est grave, on est foutu.
Doucement, calmez-vous, Maréchal, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'on est foutu. Tu as vu ça ?
Quoi ?
La maison de la radio est un vaisseau spatial rempli d'extraterrestres qui vont nous asservir. Ça, tu sais ?
Oui.
Un de leurs chefs, c'est Augustin Trappenard, hein, mon dentier se décroche. Ça, tu le sais ?
Oui.
Eh bien, je viens de regarder sur le très sérieux site d'info Torture, Médias et Art de Vivre. C'est officiel et médicalement prouvé.
Quoi donc ?
Après 2 ans d'observation, maintenant on le sait. En réalité, Nagui n'est pas Nagui, mais une version alien reformatée 3.0 de Michel Drucker pour hypnotiser les Français de plus de 75 ans, de catégorie CSP-, et pratiquer sur eux un lavage de cerveau à base de karaoké.
Ok, c'est bon, cette fois j'y crois, je quitte la planète. Et là, toujours dans mon rêve, je quitte ma maison, je monte dans un taxi. Qui c'est qui est au volant du taco ? Les frères Bogdanov. Alors, je sais, c'est trop, mais là je me suis évanoui. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'évanouit dans un rêve ? Eh ben on se réveille. Eh ben voilà. Et voilà. Et je ne vous le cache pas que depuis, même si je ne crois pas à la théorie du complot, je suis quand même un tout petit peu inquiet. Et plus ça va, plus je trouve qu'il a un regard étrange, ce soi-disant François Cluzel. À demain.
Merci Daniel Morin-Garnoux.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Et ce film Normandie nue, j'ai beaucoup cité les hommes avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier de Maison, Arthur Dupont, Grégory Gadebois et Philippe Robaud. Citons les filles et les femmes. Et j'ai retrouvé cette Daphné Dumont, la Daphné jeune Dumont. Comédienne, oui, absolument brillante, qui joue l'employée à la laiterie. Il y a Julianne Roth, vous l'avez dit, et Lucie Muraté, qui joue cette Miss Normandie.
Oui, et Brigitte Chamarande, qui joue la patronne de l'hôtel.
Formidable. Mais il faut les citer parce que les femmes ont aussi un rôle clé et déterminant dans ce film. Normandie nue, c'est demain au cinéma. Au printemps prochain, vous démarrez peut-être le film dont il ne faut pas parler, réalisé par Guillaume Canet.
Peut-être par
Canet. Ouais, sûrement la suite des petits mouchoirs, mais il y a aussi Le Colis Rouge qui va sortir cette fois-ci. Film de Jean Becker, vous l'avez déjà tourné ?
Oui, on l'a déjà tourné. Je retrouve Jean Becker après L'été meurtrier. Ça me faisait drôle de retrouver mon personnage de L'été meurtrier, ce film qu'on a fait avec Adjani, Souchon, et ce Mickey. C'est Mickey qui disait toujours en L'été meurtrier, je vais gagner, merde, ah, j'ai perdu, merde.
Et Collier Rouge, c'est un roman de Ruffin, c'est ça?
Oui, c'est un roman de Ruffin. Et on joue ça avec Nicolas Duvauchel. Je pense que Enfin, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour le bouquin.
Ouais.
Et c'est l'adaptation du bouquin. C'est vraiment une très belle idée. Grosso modo, c'est l'histoire d'un type qui est mécontent qu'on lui remette la Légion d'honneur.
C'est un soldat et son chien, c'est ça ?
Un soldat, son chien
poilu, ouais.
Et un juge militaire. Mais comme il est très mécontent de la façon dont on parle de ses actes d'héroïsme, il prend sa Légion d'honneur et il la met au cou de son chien. Ce qui lui vaut évidemment la tôle directe à l'époque 1920. On rigole pas avec ça.
Des excuses à présenter, Daniel, avant de
Déjà, désolé pour l'amicale des nudistes normands qui m'a appelé à la pause pour dénoncer le mépris dont a fait preuve la pessimisto-ruralo-naturiste Leïla Kadour-Boudadi. Écoutez, à midi, j'ai discuté avec elle à la pause cocaïne et maintenant, elle est d'accord. Je vous l'envoie ce week-end. D'accord. Désolé pour Madame Cluzet qui, on l'a compris ce matin, ne voit que rarement à poil son mari. Franchement, je peux vous dire, il s'est débridé tout au long de l'émission. Hein, on l'a même vu se balader à la pause, le à l'air dans les couloirs de France Inter. Ça devrait
arranger la situation. Désolé pour les fans de François Cluzet qui ont découvert ce matin le psychopathe qui, enfant, s'auto-interviewait et l'usurpateur qui a fait carrière parce qu'il faisait 1m74. Ah là là, les artistes.
Merci François, merci mille fois d'être venu
merci
ce matin.
Merci à tous.
Normandie Nue, c'est demain au cinéma. C'est réalisé par Philippe Leguet. Et demain, nous recevrons dans cette émission Élodie Bouchèze et Lolita Chama. Passez une très bonne journée avec les carnets justement de campagne, mais les vrais cette fois-ci, de Philippe Bertrand. Désolé.
Ah, bah, non, mais il n'y a pas de souci. Elle est belle, la Normandie.
Oui. Voilà.
Si tu la regardes droit dans les yeux, même à 40 ans, tu vois son sein.
Oh.
C'est joli. Voilà. Ils sont enregistrés les hauts avant
oui,
ou
oui.
Non,
ouais,
on les
ouais.
prend à chaque fois.
Ouais, ouais. Ça c'est Bruno hein, qui s'inquiète.
Bruno,
c'est enregistré.
Il peut s'inquiéter, il est midi et demi.
Ouais, c'est ça, oui. Merci journée. Les amis. Merci. Salut. Donc midi et demi sur France Inter.
Bonjour. Non parce que les hauts, c'est toujours les mêmes.
Ah bon?
Oui, je pense que c'est enregistré. Ils vous le disent pas, mais c'est enregistré.